Nous accueillons Jean-Claude pour nous apporter le message ce matin. Jean-Claude, sois vraiment le bienvenu. Et sois libre au milieu de nous pour nous dire ce que tu as à nous dire de la part de notre Dieu, notre Père en commun. Alors on va prier pour toi. Seigneur Jésus, tu bénis Jean-Claude, tu le gardes, tu lui donnes ton esprit. Nous savons que tu lui as déjà donné d'ailleurs pour préparer quelque chose et nous apporter tes paroles ce matin. Merci pour lui, pour Litcha. Merci parce qu'ils sont au milieu de nous. Bénis-les, Seigneur. Et au travers de bénis-nous aussi. Amen. Alors, nous avons quelques textes à lire avant de commencer cela. Le premier, c'est dans Matthieu 5, versets 13 à 20. Ah, oh, bien, ils sont écrits, ça va bien. Verset 13 à 20. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Et le deuxième texte, c'est dans Matthieu, chapitre 3, au verset 1. En ces jours-là, parut Jean le baptiseur, Jean-Baptiste. Il proclamait dans le désert de Judée, « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » C'est de lui qu'il a été dit par l'entremise du prophète Ésaïe, c'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendrez droit ses sentiers. »
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais une chose que j'aime pas, absolument pas faire, c'est de circuler dans des très grandes villes. Alors vous me direz en Suisse, il n'y a pas trop de problèmes, peut-être Zurich, mais si vous voyagez un petit peu, vous vous trouvez confronté à parfois des situations pas très faciles à gérer. Ça nous arrive avec Litcha d'être dans la région de Milan et en particulier des fois on va visiter sa sœur Lucia qui vit dans la banlieue. Et je me rappelle je crois que c'était l'avant-dernière fois on est allé passer la visiter. C'est un peu l'heure de pointe. J'ai dit je vais pas prendre l'autoroute périphérique mais je vais mettre mon navigateur en marche et puis on va essayer de passer à travers la ville pour arriver au sud de la ville et prendre l'autoroute pour direction Bologne. Très mauvaise idée. Pourquoi ? Bah, d'une part, s'il y a du trafic sur le périphérique, il y en a aussi en ville. Hein. Et d'autre part, j'ai découvert que, bien que je pensais avoir toujours ajourné mon navigateur, il n'était pas du tout à la page. Et je me suis trouvé dans des dédales de rue dont je m'en sortais pas. À un moment donné, le navigateur me disait de continuer tout droit. J'aurais dû sauter par-dessus un guardrail pour pouvoir le faire. Bref, ça a été assez angoissant. Quand on voyage, il faut, si on ne connaît pas l'endroit, il faut disposer de cartes à journée. Et il faut savoir les lire aussi, bien sûr. Ça, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas facile, sinon on a de la peine, on ne sait pas trop où on va et souvent on n'arrivera pas à destination. Cette petite illustration m'amène à réfléchir avec vous à certains aspects de notre engagement, de notre façon de voir, de vivre la vie chrétienne. Parce que je crois que là aussi, on a besoin de cartes pour s'orienter dans la vie chrétienne. Et on a tous dans notre esprit des cartes, c'est-à-dire des idées de ce qu'est la vie chrétienne, du sens de notre vie, de ce que le Seigneur attend de nous, finalement. Alors, c'est pas original comme sujet, mais c'est important. On est conditionné par des cartes qui sont dans notre esprit, dans notre cœur, et elles vont conditionner notre chemin, les choix que nous allons faire. Et ceci est très important parce que ça va déterminer aussi l'énergie que nous allons mettre pour faire ou pour ne pas faire certaines choses. Une phrase sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi récemment, c'est celle-ci. Je me bats pour les choses auxquelles j'attribue de la valeur. Donc, c'est important pour savoir comment vivre ma vie chrétienne, savoir à quoi est-ce que je donne de la valeur. D'après moi, qu'est-ce qui est important pour le Seigneur? Qu'est-ce qui est prioritaire pour lui? Dans le cadre de la communauté où nous sommes actuellement engagés, en Toscane, entre Florence et Pise, dans une localité qui s'appelle San Miniato, après un colloque d'église, on a vu naître, je dirais finalement, des projets qui partent un peu dans ce qu'on appelle traditionnellement le social. C'est-à-dire, le colloque a décidé de partir avec un projet de vestiaire. Et puis, au-delà du vestiaire, il y a d'autres projets qui vont prendre forme. Litcher a l'occasion de partager quelques nouvelles très rapidement à la fin du culte, donc je vais pas rallonger sur la description de ce que notre Église a décidé, mais quelque chose m'a frappé quand on a eu ce moment de partage et cette décision un peu de partir dans ce qu'on appelle un engagement social. C'est les réticences, je dirais, d'une partie de l'Église, et souvent au niveau des co-responsables, c'est-à-dire on a mauvaise conscience, on a une carte mentale qui nous dit « Hops, on doit évangéliser, le social, ça n'a rien à voir avec ça ». Alors, ça m'a amené à réfléchir un peu plus et aussi à remettre le sujet sur le tapis et de pouvoir aussi le partager. Et j'espère que ce que je partage avec vous, c'est quelque chose que j'ai partagé dans un contexte italien, mais que ça puisse aussi avoir un sens par rapport à votre vécu amérin et puis aussi par rapport à cette étape importante, c'est 50+1. Donc, quelle est ma perception? Pourquoi est-ce que je vais m'engager? Qu'est-ce qui est important à mes yeux? Question très importante, quelle est ma perception du monde dans lequel je vis? Quelle est ma perception du rôle que j'ai dans ce monde? Quelle est l'idée que je me fais de ce qu'est le regard de Dieu sur notre monde, sur notre société, sur la ville dans laquelle nous vivons? Quel type de mentalité est-ce que j'ai par rapport à la société, par rapport au monde? Je manque de Suisse depuis trop longtemps, je ne peux pas vous donner les réponses, je veux seulement vous poser des questions. Je vous assure que dans notre contexte, dans des contextes évangéliques italiens, quand on dit monde, ça n'a pas une connotation très positive. Il y a beaucoup de mépris, c'est une réalité moche, corrompue. Et je crois qu'on peut identifier plusieurs mentalités autour de cette question du monde et de comment nous le percevons et nous le vivons. J'en ai défini trois. C'est un peu caricatural, mais ça aide quand même à aller de l'avant et à progresser dans la réflexion. Diverses mentalités. OK. Diverses mentalités par rapport au monde, notre perception du monde, notre présence dans le monde dans lequel nous vivons, dans la société. La première mentalité, la mentalité bunker, c'est la mentalité qu'on voit beaucoup dans notre contexte, une perception très fermée, très négative vis-à-vis du monde. Aucun intérêt pour changer quelque chose dans notre société. De toute façon, ce monde doit passer, le Seigneur va revenir. Pourquoi faire quelque chose pour le bien de cette société? Pourquoi s'engager dans le social? Ça n'a pas beaucoup de sens. Dans ce genre de mentalité, ce qui est important, on le dit, c'est d'évangéliser. C'est-à-dire, le message est très verbal. Bien sûr, il n'est pas très vécu. C'est de dire, Jésus est mort pour toi, tu dois croire en lui et tu seras sauvé. Donc, il y a une mentalité fermée, une mentalité aussi pleine de peur. On a peur que si on s'implique trop dans cette société, on va être contaminé, on va se salir. Et encore une fois, cette forte perception, ce monde va passer, on ne va pas y faire grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose de déterminant pour que ce monde aille mieux. Donc, pourquoi se poser trop de questions quant à ce qu'on peut appeler un engagement social? Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, dans notre contexte, si on se pose des questions d'engagement social, c'est parce que la situation s'est passablement dégradée ces dernières années. La Toscane était une région on vivait bien, presque pas de chômage, etc. Aujourd'hui, la situation est nettement plus dégradée et on voit des familles de chômeurs et qui commencent à avoir des sérieux problèmes pour nouer les bouts et arriver à la fin du mois. Donc, il y a cette mentalité bunker. Et puis, une autre mentalité, c'est la mentalité dominatrice. Les valeurs chrétiennes doivent s'imposer dans notre société. On en arrive à faire des hypothèses de partis politiques chrétiens, partis d'inspiration chrétienne. Alors, en Italie, on a une longue histoire à ce sujet-là. On a eu, dans l'après-guerre, ce qui s'appelait la démocratie chrétienne. On pourrait vous en raconter une belle page. L'idée qu'on peut imposer, qu'on peut triompher dans cette société, qu'on peut conquérir ce monde, cette société pour l'Évangile. Donc, il y a une note de triomphalisme et une mentalité très combative dans notre société à plusieurs niveaux, de plusieurs façons. La troisième mentalité, c'est la mentalité accommodante, celle du compromis. On tolère ce qui ne nous plaît pas dans ce monde, on se tait, on a peur de devenir impopulaire, on a peur d'être pris pour des gens bigots. On évite d'entrer en route de collision et de se démarquer par rapport au courant principal qui motive notre société. Mentalité du compromis, on ne veut pas imposer nos vues, tout n'est pas si mal dans ce monde, on ne doit pas juger, etc. Ces mentalités sont intéressantes dans le sens qu'elles véhiculent, chacune de ces mentalités véhicule des idées qui ne sont pas nécessairement fausses. Il y a du vrai dans chacune de ces mentalités. Pas le temps de les développer, ce n'est pas mon but ce matin, mais il y aurait quelque chose à approfondir et voir dans ces diverses mentalités qu'est-ce qui était perçu, qui correspond aussi au message biblique et qu'est-ce qui peut être une déformation du message biblique. Ceci dit, ce que je voulais vous proposer ce matin, c'est une autre approche par rapport à notre présence, notre mission, notre engagement dans notre société. Et j'aimerais le faire à partir d'un texte qui est bien plus ancien, ce sont des paroles du prophète Jérémie. Et je vais lire d'abord un verset qui sera central, et puis après je vais essayer quand même de parler du contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées. Voici la parole de Jérémie. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Le prophète Jérémie a dû exercer son ministère dans une époque historique difficile pour le royaume de Juda, qui est le royaume de Juda arrivait un peu au bout de sa course. La puissance mondiale qui montait, c'était Babylone. Et le moment où le pays aurait été dominé approchait. Et Jérémie a eu un rôle très difficile, alors que de faux prophètes s'animaient passablement pour dire « Ne craignez rien, tout va bien se passer, il n'y a rien de grave qui va nous tomber dessus ». Jérémie a dû donner des paroles complètement contre-courant. Lorsque tout le monde disait « ça va bien, ne vous en faites pas, tout baigne dans l'huile », qu'est-ce qu'il a dû dire ? « C'est pas vrai, on va se casser la figure, on va être déporté ». Et puis quand la catastrophe était imminente, il a eu là aussi un message complètement contre-courant, c'est de dire « mais ne vous déprimez pas, ça va être que pour un temps. Nous allons être déportés, mais le Seigneur va nous ramener dans notre terre ». Jérémie sait que les projets de Dieu se réalisent et que la captivité sera seulement pour un temps. Voici un message qu'il a dû délivrer. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai parvenir à l'endroit où je vous ai fait partir, d'où je vous ai fait partir en exil. C'est un peu un message paradoxal et une situation paradoxale. Les choses vont mal, le peuple va être déporté. Enfin, il a été historiquement déporté en Babylone. Hein, c'était une politique des puissances de l'époque pour mieux contrôler un territoire que vous avez conquis. Vous évacuez la population, puis vous amenez dans ce pays des gens qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas les mêmes attachements à cette terre. Ça permet de mieux contrôler une terre que vous voulez coloniser. Donc, partie du peuple d'Israël se retrouve en Babylone et le message, la promesse retentit très fort. Ne vous déprimez pas, ça ne va pas durer. Le Seigneur va vous ramener dans votre terre d'origine. Dans ce contexte-là, quelle serait votre attitude, hein? On vous déporte dans un coin où vous n'aimez pas la ville, vous n'aimez pas le contexte social, culturel, religieux, rien ne vous plaît. Et on vous dit, c'est pour un temps. Quelle mentalité allez-vous développer dans un tel contexte? Est-ce que vous allez vous engager fortement, mettre des racines dans un tel contexte? Bon, personnellement, pas. J'essaierai de vivoter, puis en attendant que ça passe, quoi. Pourquoi s'engager? Pourquoi y mettre le paquet quand on sait que c'est du temporaire? Et voici le message de Jérémie, encore une fois, complètement contre-courant, pas seulement pour son époque, mais aussi pour la nôtre. Voici ce que dit l'Éternel, le maître, c'est toujours dans le chapitre 29, hein, si vous voulez retrouver ces passages. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre propre bien-être est lié au sien. C'est complètement contre-courant. Engagez-vous, investissez, mettez-y le paquet. Ça, c'est le premier aspect du message. Et l'autre aspect, c'est votre propre bien-être est lié au sien. Si on voudrait dire dans un langage un peu plus évangélique, si vous voulez être béni, bénissez le peuple là où vous vivez. Alors, c'est complètement fou. C'est pas logique. Et ce message de Jérémie que j'ai un peu redécouvert m'a parlé pour notre contexte actuel. Si on veut utiliser un peu le même langage, on est des exilés. On peut vivre notre vie présente avec cette perception qu'on est de passage et que nous attendons la manifestation, la pleine manifestation du royaume de Dieu. Nous attendons un monde où finalement la paix, la justice, l'amour régneront, triompheront. Donc, on est de passage et on sait que le meilleur est devant nous. On est un peu dans une situation semblable. C'est là qu'on peut être tenté par des raccourcis. À quoi bon s'impliquer? À quoi bon faire trop de choses dans cette société qui de toute façon doit passer, qui de toute façon est mauvaise, etc. Mais ce n'est pas la logique du Seigneur, ce n'est pas le cœur du Seigneur pour notre monde. Quand on dit que Dieu, quand l'Évangile nous dit que Dieu a tant aimé le monde, ben, ça veut dire beaucoup de choses qu'on devrait écouter encore plus aujourd'hui et mettre en pratique. Nous avons une responsabilité qui est celle de manifester l'amour de Dieu dans notre monde. Si vous réfléchissez un peu on revient à l'image de la carte, quels sont les deux axes principaux que le Seigneur nous a laissés? En fait, ce qui nous vient spontanément, je pense à l'esprit, il n'y a pas le temps maintenant d'établir un dialogue entre nous, mais on pense très vite à la fin de l'évangile de Matthieu et au mandat missionnaire, de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est un axe très fort. Mais en même temps, il y a un axe fondamental que Jésus a mis en évidence, c'est le premier commandement. Aimer Dieu, aimer notre prochain, nous aimer nous-mêmes. Les deux choses sont fondamentales et elles font partie de notre mission aujourd'hui. Donc, nous sommes aussi appelés à manifester l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu se manifeste d'une façon pratique. L'amour de Dieu se manifeste par des gestes désintéressés, des gestes qui sont simplement des gestes qui démontrent que nous avons à cœur ce monde dans lequel nous vivons. Jérémie parle aussi d'intercession, il y a une dimension de prière, mais une dimension très pratique. Il y a les deux dimensions qui sont dans ce passage. Une dimension que nous aimerions appeler spirituelle, on prie pour le bien du monde dans lequel nous vivons, et en même temps, quelque chose de très pratique, impliquez-vous. Faites des choses pratiques, des activités sociales, économiques pour le bien de la nation dans laquelle vous vivez. Donc, nous avons un mandat qui va assez loin. Nous sommes aussi des exilés avec une responsabilité importante dans la société dans laquelle nous vivons. Pour utiliser maintenant un autre langage, et puis j'arrive à la conclusion, nous sommes appelés à être de bons administrateurs dans notre société, dans ce monde, pour différentes raisons. La parole administrateur, nous la trouvons dans le Nouveau Testament, mais elle est un peu camouflée parce que souvent les termes grecs sont rendus de façon un peu diverse dans nos traductions françaises ou italiennes. J'ai là sous mes yeux un passage, cette lecture de la première lettre à Timothée, où l'apôtre Paul dit à un certain point... Il exhorte les chrétiens à ne pas s'attacher à ce qu'il appelle des fables, des généalogies sans fin. Il s'attaque à des doctrines un peu bidons qui faisaient du dégât dans l'Église, qui produisent, il dit, ne vous attachez pas à toutes ces discussions vaines qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, les instructions que je vous donne, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Dans ce passage, il parle... de servir le projet de Dieu. Et le but, c'est l'amour. Il y a projet de Dieu, et c'est l'administration du projet de Dieu. On a cette parole grecque qui est oikonomia, qui à l'origine définit l'habilité à gérer une maison. Une maison, une propriété, on dirait aussi un domaine, il y a des agriculteurs. Oikonomia, l'économie, savoir gérer une maison. Et c'est intéressant, l'apôtre Paul utilise ce mot pour parler de notre responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes des administrateurs, des économes, si on peut dire aussi comme ça, des projets de Dieu. Alors, la responsabilité est là, et ce qui m'a frappé en lisant ce passage dans la première lettre à Timothée, c'est qu'en parlant de nos responsabilités, il parle très vite de l'amour. Donc, les deux choses sont nouveaux là. Notre responsabilité de manifester l'amour de Dieu. Manifester, témoigner l'amour de Dieu qui veut nous réconcilier avec lui au travers de Jésus-Christ, mais aussi témoigner l'amour de Dieu par des gestes pratiques. Nous engager pour le bien commun, le bien de notre monde. Être des administrateurs qui savent aimer. Ça, c'est une note qui dérive beaucoup de notre ministère, mais en commençant par notre propre famille, parce que si on n'arrive pas à vivre l'amour dans notre propre famille, je crois qu'on part du mauvais pied. Des administrateurs qui savent servir dans la société où ils vivent. Et puis, une dernière référence, il y a un mandat qui n'a jamais été révoqué, qu'on oublie parfois, c'est la Genèse, c'est le mandat que Dieu avait confié à l'homme et à la femme au départ. Dieu créa l'homme, l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu les bénit, leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Donc, le mandat de gérer la création qui n'a jamais été révoqué, souvent dit, ouais, on est dans le nouveau, on vit dans la nouvelle alliance, on est dans le Nouveau Testament. Oui, mais il y a des paroles de l'Ancien Testament qui n'ont jamais été révoquées. Donc, on a toujours cette responsabilité de gérer la création. Et on le fait par fidélité au Seigneur, par désir d'être aligné sur sa volonté. On ne le fait pas parce que on a la certitude que tout ce qu'on va faire va changer la face du monde. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de vivre l'amour tel que le Seigneur nous le demande. Il est facile, quand on parle d'engagement, d'être découragé, de se dire, mais on est Ce que je peux dire comme ça, on est deux plaies, trois tondus, on n'est pas très nombreux comme chrétiens. En Italie, on est encore moins nombreux qu'ici, donc vous déprimez pas. Si vous voulez vous déprimer, vous venez chez nous. Puis on sera plus deux plaies, trois tondus. On aura des renforts. Bref, au-delà des gags, c'est facile de se de décourager. Je le vois aussi dans nos contextes. Mais en fait, je me rappelle au colloque une des phrases qui est sortie, mais on fait un vestiaire. Mais les catholiques font beaucoup plus que nous, ils ont beaucoup plus de moyens. Oui, où est le problème? On ne fait pas pour faire concurrence, on fait parce qu'on est convaincu qu'il y a des besoins dans notre société et qu'il y a aussi de la place pour la petite goutte d'eau que nous pouvons apporter. C'est tout. On ne le fait pas par un critère d'efficacité extrême ou parce qu'on pense qu'on est mieux que les autres et qu'on va le faire, on va le faire d'une façon exceptionnelle. C'est notre façon de vivre à notre niveau l'amour de Dieu et de vouloir le témoigner dans notre société. C'est pour ça que j'ai choisi dans les textes introductifs les paroles de Jésus qui nous rappellent que nous sommes appelés à être sel et lumière de ce monde. Et finir aussi avec cette image. C'est des lanternes chinoises, je pense que vous connaissez. Et on peut dire que chacun de nous est une petite lanterne, et se dire tout seul dans ces ténèbres dans lesquelles nous vivons, ben, une petite lanterne, ça ne fait pas beaucoup. Mais des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de lanternes peuvent changer quelque chose, peuvent illuminer ces ténèbres, peuvent avoir un sens profond. Ça ne va pas changer la face du monde, mais ça fera quelque chose. Et ça fait partie de ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Donc, encore une fois, on s'engage, c'est pas simplement comme j'ai parlé de la mentalité conquérante, c'est pas parce qu'on pense qu'on va par nos propres efforts amener le royaume de Dieu sur la terre, mais on veut répondre à l'appel, on veut être aligné. Des fois j'essaie de prendre des mots italiens puis de les passer en français, mais ça marche pas, c'est grave. On veut être aligné sur ce que le Seigneur nous demande, sur ce qui est précieux pour lui. Et ça veut être ainsi un choix de réponse à son amour. On ne veut pas le faire comme une grande corvée, ce que ça va être lourd, ce que ça va être embêtant. Non, Dieu nous a aimés, Dieu m'a aimé, Dieu t'a aimé. Conséquence, ben, j'aime à mon tour. Et comment est-ce que je peux aimer? Ben, de bien des manières. Pas simplement en allant distribuer des tracts évangéliques. Je dis ça parce que dans notre contexte, c'est souvent comme ça. On privilège beaucoup une annonce verbale qui est souvent faite encore dans un langage qui n'est pas très compréhensible, et puis on ne construit pas des ponts pour rencontrer les gens autour de nous. Alors je crois que l'amour a aussi cette dimension d'illuminer ces ténèbres et de construire des ponts pour que l'amour de Dieu puisse pénétrer dans notre société. J'aimerais conclure par la prière. Seigneur, nous voulons reconnaître que l'Évangile nous prend à contre-poil. Nous voulons reconnaître que face à ta parole, nous voyons que ta logique n'est pas du tout la nôtre. Seigneur, nous avons constamment besoin d'ajourner nos cartes. Nous avons constamment besoin d'être recentré sur ce qui est important à tes yeux. Seigneur, merci de ce que cela est possible. Merci de ce que tu n'es pas un patron qui nous décourage parce qu'on a commis des erreurs, mais tu es une présence aimante et fidèle à nos côtés. Une présence encourageante, une présence qui veut nous stimuler à aller dans la direction qui est la bonne pour nous. Merci de nous aider à vivre d'une manière renouvelée notre présence, notre témoignage, là où nous sommes tous les jours, avec nos collègues de travail, avec nos voisins, avec notre famille. Seigneur, aide-nous à œuvrer pour le bien de ce monde, de cette société, de cette ville dans laquelle nous vivons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen.